RJB Info. Diana Dacosta.
Bonjour, la parole comme arme pour se défaire ou mieux vivre avec un trouble, c'est ce que prône Info Entraide Berne. L'organisation cantonale a récemment créé à Bienne un groupe d'entraide pour les personnes qui souffrent de dépendance affective. Ce trouble psychique se traduit par un grand besoin d'affection de l'autre. Ça peut arriver dans les relations amoureuses, mais aussi en amitié ou même dans la sphère professionnelle. L'objectif d'Info Entraide est de proposer un soutien mutuel et un échange d'expériences via des groupes de parole. Corinne Ruggiero est conseillère au sein de cette organisation. Elle nous explique comment sont créés ces groupes.
Alors, nous créons des groupes d'entraide sur simple demande d'une personne intéressée à s'engager dans un groupe d'entraide. Donc là, effectivement, c'est une personne qui nous a contactés, qui nous a demandé si on avait déjà un groupe d'entraide qui existait sur ce sujet-là. Et comme ce n'était pas le cas, on a lancé la création d'un nouveau groupe, on a fait la publicité. Et puis les premières rencontres seront accompagnées, donc je serai présente aux premières réunions. Et puis après, le groupe va voler de ses propres ailes, et puis les personnes vont se rencontrer entre elles. Il n'y aura pas de professionnels qui vont les suivre ou les guider. Bien sûr, on reste toujours là en cas de soucis dans le groupe. Lorsque le groupe démarre, après les premières rencontres, on va de nouveau participer à une rencontre pour voir comment ça se passe, quels sont les besoins et comment fonctionne le groupe, pour ajuster si besoin.
Il existe évidemment déjà des thérapies spécialisées, des suivis médicaux. En quoi le fait d'en discuter simplement avec d'autres personnes, ça peut aider dans le chemin de la guérison?
Donc c'est un plus, effectivement. Ça ne remplace pas une thérapie ou un traitement pour tous les groupes. Et puis, ça permet aussi de pouvoir poser ce qu'on vit, mais aussi de se lancer des défis, et puis d'être toujours dans la bienveillance, on est dans le non-jugement, dans le respect. En groupe, on se sent aussi porté, on se sent soutenu.
La première rencontre adressée aux personnes dépendantes affectives se tiendra jeudi à Bienne. La participation est gratuite. À noter qu'il existe déjà une large palette d'offres pour tout type d'affection, comme la bipolarité, le cancer du sein, la dyslexie ou même le Covid long. Groc fait son entrée au nouveau musée de Bienne. L'institution vient d'entrer en possession de la vaste collection du célèbre clown originaire de l'Euvresse. Instruments, pièces de costumes, disques, compositions, photos originales ou affiches, l'inventaire prendra des mois. Le musée entend travailler et faire des recherches sur les liens que le clown entretenait avec le régime nazi. C'est ce qu'a indiqué la directrice de l'institution à la RTS et au journal du Jura. Un accident s'est produit sur l'A16 hier matin à Tavannes. Un automobiliste a violemment percuté le mur du tunnel de la Rochette en direction de Bienne. Cette collision a provoqué une dispersion d'huile sur la chaussée. Les sapeurs-pompiers professionnels de Bienne ont été dépêchés sur les lieux pour effectuer le nettoyage nécessaire. Pendant cette intervention, le tunnel a dû être temporairement fermé. Aucun blessé n'est à déplorer. Les Turcs sont de retour aux urnes. Le deuxième tour de l'élection présidentielle est en effet au programme de ce dimanche. Un scrutin qui oppose d'un côté le président sortant Recep Tayyip Erdogan et de l'autre le social-démocrate Kemal Kılıç Daroğlu. Lors du premier tour, l'actuel chef d'État a obtenu 49,5% des voix et son adversaire 44,9%. Les enjeux de ce deuxième tour avec Alexandre Rossé.
Recep Tayyip Erdogan part donc avec un peu d'avance, 2,5 millions de voix pour être précis. Le président sortant a également obtenu en début de semaine un soutien important, celui de l'ultranationaliste Sinan Ogan, qui était arrivé en troisième position au premier tour le 14 mai. Le cinquantenaire a indiqué que les négociations menées avec l'actuel chef d'État avaient été conduites autour des principes suivants. Le terrorisme sera combattu, un calendrier sera établi pour envoyer les réfugiés et les institutions étatiques turques renforcé, a-t-il énuméré. Sinan Ogan avait récolté quelque 2,8 millions de suffrages, mais pas sûr que tous aillent automatiquement à Recep Tayyip Erdogan. Une partie de son électorat entendait tourner le dos à celui qui est au pouvoir depuis 20 ans. Dans l'entre-deux tours, Kemal Kılıç Daroğlu a en tout cas durci son discours en ce qui concerne l'immigration, thème clé de cette élection, comme le rapporte la radio Europe 1 sur son site. De quoi peut-être attirer certains électeurs de Sinan Ogan. Il a accusé le président sortant d'avoir accepté 10 millions de migrants. Si tu restes au pouvoir, 10 millions de réfugiés de plus s'installeront en Turquie. Dès que j'arriverai au pouvoir, je renverrai chez eux ces migrants. Point final, a-t-il déclaré.
L'Ukraine a affirmé aujourd'hui avoir contré durant la nuit l'attaque de drones la plus importante sur Kiev depuis le début de l'invasion russe. Les autorités militaires disent avoir détruit 52 des 54 drones explosifs lancés par Moscou, dont plus de 40 au-dessus de la capitale. Un premier bilan fait état de 2 morts et 3 blessés à Kiev. Le Festival de Cannes s'est achevé hier soir avec la remise de plusieurs prix, dont la Palme d'Or. C'est la Française Justine Triet qui remporte le trophée pour Anatomie d'une chute. Ce film qui raconte l'histoire d'une femme accusée du meurtre de son mari a séduit le jury présidé par le réalisateur suédois Ruben Östlund. Les détails de Caroline Toussaint.
Le jury a donc décidé de récompenser une femme, Justine Triet, qui devient de ce fait la 3e réalisatrice à remporter une palme d'or dans l'histoire du Festival de Cannes. Son film « Anatomie d'une chute » devait d'abord être une série, mais Justine Triet a préféré un long métrage, le plus intime qu'elle ait réalisé jusqu'alors. C'est l'histoire d'un procès, celui de Sandra, qui est soupçonnée du meurtre de son mari Samuel. Leur relation est alors disséquée devant la cour. Le film met en avant les dynamiques de pouvoir au sein d'un couple d'artistes aisés. Il expose aussi les préjugés sociaux auxquels se heurtent les femmes indépendantes.
Plusieurs autres prix ont encore été décernés à Cannes hier soir, notamment le prix de la mise en scène remis au franco-vietnamien Tran Anh Hung pour La Passion de Dodin Bouffant.
Sport.
Le rideau est tombé hier sur une saison difficile pour le FC Bienne. Assurés de leur maintien, les footballeurs ceylandais ont concédé une ultime défaite lors de la dernière journée de Promotion League. Ils se sont inclinés 3-1 à domicile contre les moins de 21 ans du FC Bâle. Les dirigeants biennois veulent repartir du bon pied pour la saison prochaine. Ils ont annoncé la prolongation du contrat de leur entraîneur Samir Chabedra jusqu'en juin 2024 avec une option pour une année supplémentaire. Il avait été nommé fin mars pour remplacer c'est Jean-Michel Eby, les explications du directeur sportif du FC Bienne, Mauro Yerepa.
Je pense qu'on est des miraculés. Si on peut fêter une permanence en Promotion League, c'est surtout en raison de la faillite de Casso. Après, ce qui n'a pas fonctionné par rapport aux objectifs qui étaient fixés, voilà, je pense que c'est une erreur qu'on a faite de notre part de vouloir peut-être atteindre des objectifs qui étaient trop élevés pour nous, sous le coup de l'euphorie de la montée d'il y a déjà 2 ans. Et puis à nous maintenant de trouver des solutions pour que voilà, ce genre de saison ne se répète plus.
Il y a eu 3 entraîneurs qui se sont succédés, dont Samir Chabedra qui a fini la saison et qui a réussi à obtenir le maintien du club en Promotion League. J'ai appris que vous alliez continuer avec lui maintenant. Pourquoi avoir ce choix de continuer avec lui ?
Tout simplement parce que depuis qu'il est là, donc plus ou moins 10 matchs, on a obtenu des bons résultats et surtout on a vu que voilà, il avait une autorité assez naturelle, ce dont on avait besoin. Il a des bons principes de jeu, une bonne philosophie de jeu qu'il a réussi à transmettre à l'équipe. Et surtout, il a réussi à vraiment créer un bon état d'esprit autour de lui.
Et puis maintenant, 6 mois après l'arrivée des investisseurs de Coursport, qu'est-ce que ça va changer sur votre travail à vous ? Et puis pour la saison prochaine, est-ce qu'on peut s'attendre à un budget qui sera plus conséquent pour le FC Bienne afin de peut-être ne pas viser que le maintien ?
Non, pas du tout. En fait, c'est pas des mécènes. Ils viennent là pour surtout nous apporter du support, des services. Donc c'est pas forcément, de l'argent qu'on va avoir directement sur le terrain. Mais voilà, ils vont nous amener du réseau, ils vont nous amener des scouts. Donc c'est leur métier de recruter des joueurs et de trouver des bonnes solutions par rapport à un budget qui reste quand même moyen, je dirais, pour cette ligue-là. En plus de ça, oui, ils nous mettent à disposition 2, maximum 3 joueurs de leur club, que ce soit Clermont et Lustenau. Mais voilà, pour nous, c'est une année de transition. Je pense que le terme Challenge League doit être effacé pendant un moment. On aimerait voilà, s'installer dans la durée. On envisage de voilà, créer un cycle de 2-3 ans pour emmener le FC Bienne là où on aimerait l'amener.
Des propos recueillis par Laurent Petita. Le FC Bienne boucle l'exercice à l'avant-dernière place avec 26 points en 34 matchs. Le ballon de football vibre dans la région à l'occasion de ce week-end de Pentecôte. Les premières finales de la Coupe jurassienne se sont disputées vendredi soir à Halle et hier au Breleu. Les titres ont été remis aux filles, aux seniors et aux juniors. Les derniers trophées seront décernés demain à Halle avec les finales des juniors E, des dames et des actifs. Résultats, galeries photo et programme des dernières finales à retrouver sur notre site rjb.ch. Place à la deuxième levée du Grand Chelem de tennis de l'année. Roland-Garros commence aujourd'hui sur la terre battue parisienne. Gilles Teichmann sera la seule des 7 représentants suisses à entrer en lice lors de cette première journée. La gauchère biennoise est en quête de rebond, elle qui a perdu près de 50 places au classement après une dernière année décevante. Elle se mesurera à Sara Errani vers 17h au premier tour. Ex numéro 5 mondial, l'Italienne avait atteint la finale Porte d'Auteuil en 2012. Même si son adversaire a aujourd'hui 36 ans, Gilles Teichmann se méfie.
Sarah, elle est une joueuse très forte. Elle a eu une carrière et encore une carrière vraiment bonne dans le simple, dans le double. Donc elle a beaucoup d'expérience. Je pense qu'elle a ses saisons plusieurs fortes, probablement. Bien sûr, le résultat dans les dernières années n'était pas les meilleurs, mais quand même, elle est ici, elle est dans le tableau final, donc ça veut dire quelque chose.
Gilles Teichmann aborde ce tournoi en panne de confiance. Elle n'a d'ailleurs gagné qu'un match en 4 tournois disputés sur le circuit principal sur terre battue, la surface qui convient le mieux à son jeu. La Zélandaise a une place de 8e de finaliste l'année passée à défendre à Roland-Garros. Elle ne veut toutefois pas penser au point WTA en jeu. Gilles Teichmann.
Si je pense comme ça, j'ai une dépression. Donc non, ça c'est pas du tout la mentalité. La mentalité c'est toujours, ouais, ces points c'est son parti. Parce qu'ils vont partir comme cette semaine ou deux semaines, mais ils vont partir. Nous, les joueurs de tennis, la mentalité c'est que chaque année, on essaye de gagner des matchs et de recevoir des points, pas de défendre. Parce que si on pense comme ça, on ne peut pas jouer. On a trop de pression et quand même, on a toujours des pressions quand même. Donc ça n'aide pas du tout.
Gilles Teichmann affronte donc l'Italienne Sara Errani vers 17h au premier tour de Roland-Garros. Les 6 autres Suisses feront leur début demain à Paris. Primoz Roglic remportera, sauf accident, son premier tour d'Italie aujourd'hui à Rome. Le cycliste slovène s'est emparé du maillot rose en remportant la 20e et avant-dernière étape hier. Il s'agissait d'un contre-la-montre de 18,6 km disputé entre Travizio et Montelussari. Il a repris 40 secondes à l'ancien leader Geraint Thomas, qu'il devance désormais de 14 secondes au général. Le championnat du monde de hockey sur glace va vivre son dénouement aujourd'hui. Après 2 semaines de compétition, seules 2 équipes peuvent encore prétendre au sacre, le Canada et l'Allemagne. Présentation de cette finale qui se disputera ce soir à Tampere avec notre envoyé spécial en Finlande, Christophe Morellon.
Cette édition 2023 du championnat du monde accouchera-t-elle d'une surprise? C'est le rêve, en tout cas entretenu par cette équipe d'Allemagne tombeuse de la Suisse en quart et qui a fait preuve d'une formidable force de caractère hier en demi-finale. Menée 2-0 après même pas 4 minutes, puis 3-2 à moins de 90 secondes de la sirène finale. C'est en prolongation qu'elle a arraché la qualification pour sa toute première finale mondiale. Sur la route d'un improbable sacre, un seul obstacle se présente encore à elle et pas des moindres, le Canada, 27 titres déjà au compteur et qui a l'occasion de devenir seul le pays le plus couronné de l'histoire devant la Russie. Le Canada qui n'est pas tombé dans le piège tendu par la vaillante Lettonie, battue 4-2 hier. Allemagne, Canada, deux formations qui sont véritablement montées en puissance ces 2 dernières semaines pour atteindre leur pic de performance au meilleur des moments. Mais ce soir, il n'en restera qu'une pour brandir le trophée et repartir avec la médaille d'or autour du cou. Peu importe l'élu, une page d'histoire s'écrira, l'histoire d'une première Allemande ou d'un record canadien.
Le coup d'envoi de cette finale entre le Canada et l'Allemagne sera donné à 19h20. Les États-Unis et la Lettonie lutteront pour le bronze dès 15h20. Un mot de météo avant de passer à table, un dimanche à manger dehors d'ailleurs. Le soleil sera encore bien présent cet après-midi malgré le développement de cumulus au-dessus du Jura. Il n'y aura en principe pas d'averse sur la région selon Météo News. Pour demain, lundi de Pentecôte, on prend les mêmes et on recommence. La bise se lèvera sensiblement dans l'après-midi. Et les températures, elles, sont de saison. On attend 21 degrés à Saint-Imier, Tramelan et Tavannes, 23 à Moutier et 24 degrés à Bienne et La Neuville. On poursuit avec un mardi dans des conditions toujours bien ensoleillées. Météo News nous dit même que ça devrait rester comme ça jusqu'au week-end prochain. En tout cas, ça sent l'été. Merci pour votre écoute. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 18h. Bon appétit, excellent après-midi.